Michel Deguy.
Douce placée pour dire quelque chose ou parler de son rapport avec l'Amérique. Il y a quelque part là une sorte de d'outrecuidance et puis en même temps de grande banalité. Puisque dans la littérature sous toutes sortes de formes, c'est-à-dire récits, romans, nouvelles, poèmes, mémoires, lettres, journal, le rapport aux États-Unis ou le rapport à l'Amérique, disons, est un thème ou un flux thématique et un genre ou une ère de genre extraordinairement traditionnel et répandu.
Michel Deguy, l'espace américain, une transamérique.
Chacun, d'une certaine manière, a à dire quelque chose de son rapport avec l'américanité et l'Amérique aujourd'hui. Dans mon cas, par exemple, un rapport difficile, complexe, en ce sens que c'est à la fois la fascination et la répugnance, enfin l'attirance et la reluctance, comme donc par rapport à un secret, une interrogation constante de la forme. Pourquoi revenir à cet espace extraordinaire et à ces villes et à ces œuvres dans la traduction et aussi donc dans le déplacement effectif vers cette terre qui est une utopie mais qu'on veut rejoindre, on prétend quand même rejoindre en prenant les moyens pour la rejoindre. L'avion, l'autobus, etc. Et en même temps, dans le rapport de lecture et de traduction de la poésie américaine du XXe siècle.
Rosemary Waldrop et Claude Royer-Journoux.
Je ne sais pas si je peux répondre à cette question vraiment. Elle est tellement grande, mais je crois, oui et non, je crois que surtout au XXe siècle, au moment où nous sommes, il n'y a pas vraiment de littérature nationale. Parce qu'il y a quand même tant de contacts que les recherches poétiques qui se font en France ont à peu près. Enfin, on ne fait pas la même chose, mais il y a des parallèles, des affinités en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. Mais il y a un côté.
Pourtant, il y a quelque chose qui, pour nous, enfin, vu d'ici, oui, semble vraiment une poésie américaine.
Oui, je crois que là, enfin, comme j'ai dit, l'espace, la géographie joue quand même un rôle. Oui, c'est même. C'est ce grand espace-là. Ça a joué au point que j'ai terminé maintenant un recueil qui. Où la situation de base, c'est la voiture, c'est d'être assis dans une voiture. Et ça, c'est très américain, on conduit beaucoup en France, bien sûr, mais c'est tellement fondamental aux États-Unis parce qu'on ne peut presque pas se déplacer sans voiture, parce que les trains, il n'y en a pas tellement. Enfin, les transports publics sont très mauvais.
Dans ce livre-là, je crois que vous faites intervenir le code. Le code de la route.
Oui, oui, c'est ça. Donc, d'une partie, il y a ce côté très américain d'être dans une voiture sur les grandes routes, mais c'est très vite devenu autre chose. C'est devenu un livre sur tous les systèmes de circulation. Parce qu'il y a la voiture, mais il y a également le corps, l'argent, la respiration, la circulation du sang et le langage.
Je pense aux films pendant un instant. Beaucoup, on le sait, des films américains, inlassablement, sous une forme ou sous une autre, c'est-à-dire dans une fable ou dans une autre, redisent la traversée de l'espace américain et la réinvention de l'espace américain. Que ce soit en motocyclette, que ce soit dans la forme du western, que ce soit dans la forme où convict ou force à s'évade et honte à traverser, on sait que toujours il y a cette espèce de redécouverte dans le thème, dans la fable, c'est-à-dire par l'œuvre d'art, de l'espace américain. Alors, dans mon expérience, comme dans celle de beaucoup, effectivement, l'espace américain, c'est peut-être la chose la plus fascinante qui soit, comme si, enfin, on a le sentiment, si je me rappelle comme ça aussi par image, de tout à coup ces grands routes comme celle qui par exemple part de Las Vegas et qui est une espèce de d'autodrome qui est large comme une vallée qui fonce vers Salt Lake City, où la route qui part de Phoenix et qui monte à travers le désert peint vers le canyon du Colorado. Et au passage, évidemment, quand j'emploie une expression, quand je prends l'expression désert peint, painted desert, ça donne envie de digresser sur un certain rapport de la peinture à la terre américaine. Et cette étrange symétrie ou relation entre une zone naturelle que les Américains appellent painted desert, comme s'ils l'attribuaient à Démiurge ayant peint la terre, et les landscapers ou l'art du paysage récemment qui essayent de transformer la terre, certains endroits de la terre, par certains gestes en entre guillemets œuvre.
Jörg Ortner. Les images flottantes ou le réveil de la métaphore au petit matin après son sommeil couché à plat ou la schizophrénie collective, une qui est profitable, ou elle, l'Amérique. Le noir, en face de moi, allait devenir fou. H, la lettre. 13 pages avant le « Appelez-moi Ismaël », mais son nom, le nom de celui qui demande d'être appelé Ismaël, allait devenir fou l'instant après et se jeter sur moi. Rabotage de mon lit, d'or dans sa propre peau. La lame vient buter contre un nœud rébarbatif. Sommeil. En USA, on dort dans la peau d'un autre. On. C'est qui? Cela n'est pas dû à la libido qui fait très rarement l'histoire. Donc... Oui, oui, le soleil nommé donc ses couches sans lune. L'enfant dit, depuis la fin de la guerre du Vietnam, les Américains habitent dans les chaumières et pleurent sous les poutres apparentes. Elle regarde la glace plus qu'elle-même. Et puis elle sait qu'elle s'agrandit, qu'elle ne voit plus la glace et soi-même en même temps. Depuis elle parle. Donc, parle. Le matelas fut bourré de bris de vaisselle. La route, une longue diagonale. H. Le bras de Morphée, un ray de lumière filtré sous la porte. Elle s'écoulait très lentement lorsque la sémence sortit enfin. L'histoire plumée. Capable que de fréquenter les lieux publics, qu'est être un passant dans les rues honoré d'un second regard. je vis son corps, ses parties cachées. Un échiquier identique à son visage, couleur d'un bébé congolais de 3 jours, en terre chrétienne. En hommage, des tatouages d'un cannibale propre et à jeun, les chrétiens ivres ont construit toutes les villes de l'Amérique en échiquier. Depuis, chaque tatouage gratte le ciel. Je m'ai couché dans la vieille mine et je n'ai dormi jamais mieux de ma vie. Ismaël. Elle n'a pas le sens d'autrui, le sens du temps, le sens du sentier, de la file indienne, du bras tatoué d'un interminable labyrinthe crétois. Mais elle a, oui, ah oui, le sens de la route en forme de bébé à tête hache, dans une étreinte d'un style pareillement matrimonial de la part d'un autre mâle. Moby, Daddy. Elle parle, parle et dit « nous ». Il se secoua comme un Terre-Neuve. Terre-Neuve, ni chenille, ni papillon, pas maintenant, mais en un autre temps. Elle oublie la plume, elle trébuchait et marchait sur d'autres objets, là où les morts ne figurent pas au recensement des vivants. Je l'ai vu en rêve, mais elle rêve, le rêve américain, et fait les cauchemars des autres. Mais la foi, tel un chacal, s'est nourrie parmi les tombes.
New York, le 6 octobre 1976.
Serge Kavronsky. L'expérience d'une double langue.
Je vais essayer d'illustrer une situation qui est particulière, c'est-à-dire qui est la mienne, une sorte de dédoublement de ma parole, coexistence dans un corps qui parle de deux langues, de deux traditions, peut-être même de 3 traditions, et le conflit qui se situe au niveau de la traduction, la fidélité de la traduction d'une pensée qui doit se corporaliser selon ma géographie dans une langue ou dans une autre. Et effectivement, de décider parfois au niveau d'une thématique quelle langue j'emprunterais pour me comprendre, pour me faire comprendre, parfois au niveau d'un besoin qui serait peut-être celui de la langue maternelle, dans mon cas, le français, bien qu'il y a bien longtemps. Je suis né à Paris en 1932. Et là, cet appel de la langue maternelle qui se situe d'une façon curieuse à un niveau plutôt ésotérique, j'entends plutôt intellectuel dans mon cas, où l'intellect recouvre une somme expressive qui essaye de percer cette présence du français qui, pour moi, reste très souvent obstacle, épreuve. Et donc, je dois passer à travers cette écriture, qui n'est pas exactement le cas de la situation quand je confronte cette langue que j'ai adoptée, c'est-à-dire l'anglais. Ce titre effrayant dans sa lourdeur passe et repasse constamment le pont de notre vue. Mais d'abord suivre la filière de bas en haut. quelque forme symbolique, un, unique, nécessaire, notre parenté mise en brochet, lui qui m'entend et moi qui parle, et tout en parlant, configuration donnée, martèle la naissance de ce qui est ici un besoin fragile. Mon propos à travers ces poèmes est très souvent voilé par un langage qui m'effraie, qui m'attire, qui me semble symbolique, c'est-à-dire au-delà duquel j'espère trouver un sens. Et donc, l'évolution, la génération de la parole sur la page ne correspond pas à une expérience vécue extérieure à ce texte, mais se constitue en expérience linguistique. Mais cette expérience linguistique, pour moi, n'est pas séparée de ma propre biologie. C'est-à-dire, il y a là où je me sens, entre parenthèses, très souvent, en brochet, exister. Il y a des sortes de pulsions qui existent au niveau rythmique et qui m'intriguent. Et ces pulsions, parfois, elles opèrent au niveau d'une allitération, d'une articulation, n'est-ce pas, que je me force de souligner en parlant, par exemple, et qui ne devient compréhensible au niveau, disons, de la banalité du sens qu'après une suite de textes.
Des bulles qu'on vit surgir des bouches d'une foule immense. Le texte. Restriction depuis 1882 contre des personnes désirant d'immigrer aux États-Unis sont concernées. Les Asiatiques, les personnes malades et handicapées, les anarchistes, les personnes recherchées par la police et les prisonniers anciennes, les pauvres, les prostituées, et depuis 1917, les illettrés, et plus tard, les communistes.
Je ne suis pas ce qu'on appelle spécialiste de la littérature américaine, et donc mon jugement n'est qu'un jugement de laïque. Mais face à cet univers éclaté à la musique, au corps dansant, à la pornographie, à la violence, j'ai l'impression que la littérature telle qu'elle se fait est à côté. Elle est précieuse ou archaïque, mais elle manque ces dimensions d'apocalypse et de carnaval qui sont dans la réalité environnante.
Dans la littérature américaine, la géographie est très présente. Hein. Si on pense à Edward Dorn, Olson et quelques autres, ou à tous les adeptes là, de l'ethnopoésie, enfin, ils ont l'air de vouloir revenir aux Indiens, parcourir les terres. Alors que dans votre travail, ce qui revient, ce n'est pas telle région ou telle autre des États-Unis, mais en fait, c'est une certaine enfance allemande.
Oui, je crois. Et c'est peut-être, peut-être la géographie est vraiment très importante parce que, puisque vous parlez de l'espace, c'est très vrai. Il y a toujours ce grand espace américain. Et je crois que, pour encore une fois parler de Olson, quand il parle de forme ouverte, c'est toujours un déplacement, une expansion. Tandis que chez moi, comme chez beaucoup d'Européens, je crois qu'il y a... Les ouvertures sont souvent des ruptures, des fentes, des craques.
Moi, j'aurais tendance à dire que la géographie chez vous se trouve à l'intérieur même de la syntaxe. Vous n'avez pas besoin de métaphores géographiques pour écrire.
Non, je suis très contente que vous disiez ça.
Oui. Enfin, je crois que c'est évident, c'est ce qui frappait Roger Giroux, qui tenait beaucoup à... traduire en entier, il n'a pas pu finir ce travail, mais à traduire en entier votre livre, je crois, le plus connu, m'excuserai pour l'accent, mais qui s'intitule « The Aggressive Ways of the Casual Stranger ».
Oui, mais je crois que ça, c'est peut-être mon côté européen. Parce que Enfin, dans la littérature française aussi, les ouvertures se font par les ruptures. Et c'est peut-être une fonction géographique parce que l'espace est tellement limité. Donc, pour avoir des ouvertures, il faut creuser, casser.
Oui. Alors que le poète américain a un peu cette impression qu'il suffit de mettre Nevada ou je ne sais quelle autre chose dans son poème, quel autre mot, pour revenir à une source, mais tout ça dans une syntaxe parfois tout à fait traditionnelle.
Oui.
Et que la vraie rupture est forcément d'ordre syntaxique d'abord, ce qui n'exclut pas la métaphore géographique par la suite. Là, je voudrais revenir à votre titre. Je sais que ce titre vient de Gertrude Stein, et là, on retombe dans la, si je puis dire, dans la syntaxe, et j'aimerais beaucoup... vous entendez parler de Gertrude Stein, qui pour moi est un écrivain gigantesque. Enfin.
Ah oui. Oui, elle est la mère à nous tous, comme elle a bien su elle-même. Non, Gertrude Stein est une importance fondamentale pour moi, et pas seulement pour moi, je trouve pour toute l'écriture expérimentale anglaise, et pas seulement anglaise même. Et c'est exactement... la syntaxe, la phrase, le rythme qui peut même être tout à fait abstrait, comme elle a commencé à s'apercevoir qu'un rythme suffisait à définir une personne. Donc, quand elle a fait le portrait de Picasso, ça raconte rien sur Picasso, c'est simplement des mots dans un rythme qui, pour elle, définissait, c'était le rythme de Picasso, et ça ne raconte ni sa vie, ni ça ne décrit pas ses tableaux, rien. Mais c'est son rythme. Il y a un côté dans ce titre, parce que le contexte où cette phrase se trouve, c'est assez intéressant. C'est dans l'autobiographie d'Alice Toklas. Et Alice Toklas se plaint des étrangers qui viennent comme ça, avec les manières agressives d'un étranger de hasard. Qu'est-ce que tout ça veut dire, ces peintures-là? Et ça aussi, enfin, je n'ai pas mis dans le titre, mais cette question, qu'est-ce que ça veut dire? Que normalement, les gens sont branchés sur un sens facile qui peut se dire dans quelques mots, au lieu de simplement regarder et essayer de comprendre une chose non discursive qui... enfin, ça, c'est fondamental également pour Gertrude Stein. Tu lis un texte tel à quelqu'un et il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de simplement écouter d'abord, d'écouter les mots, d'écouter le langage. Ça nous a porté un peu loin de la première question qui était quand même très intéressante. Est-ce qu'il y a
une littérature nationale,
et,
il y a une langue.
Il y a une langue, c'est ça.
Marcelin Plumier.
De Gertrude Stein, je vais lire la première leçon des petits poèmes pour un livre de lecture. Un chien disait qu'il allait apprendre à lire. Les autres chiens disaient qu'il pourrait apprendre à aboyer, mais qu'il ne pouvait pas apprendre à lire. Il ne connaissait pas ce chien. S'il disait qu'il allait apprendre à lire, il apprendrait à lire. S'il le fallait, on le noierait dans le marais, mais s'il disait qu'il allait apprendre à lire, il apprendrait à lire. On ne le noya jamais dans le marais, et il n'apprit jamais à lire. Y a-t-il des enfants comme cela? 1, 2, 3. Y a-t-il des enfants comme cela? 4, 5, 6. Y a-t-il des enfants comme cela? 7, 8, 9. Y a-t-il des enfants comme cela? Oui, il y a 10 enfants comme cela, et chacun des 10 avait un chien comme cela. 10 chiens comme cela et 10 enfants comme cela. Et les chiens et les enfants joueraient à la balle, mais cela n'était pas apprendre à lire. Même pas si chacun d'eux était gras juste comme cela.
New York, October 4th, 1976.
John Ashbery.
La langue qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, c'est une question qui se pose sans doute dans chaque vers que j'écris, parce que les mots sont des objets et de ce fait rassurants et aussi s'ouvrent en même temps sur un univers de choses inconnues et vagues mais précises. Ma poésie s'occupe beaucoup de la tension entre les mots comme signe et leur signification. Et c'est peut-être d'ailleurs vrai pour n'importe quelle poésie, mais peut-être plus aigu dans le cas de ma poésie. Ce que je peux reproduire dans la poésie, c'est le moyen de la façon de par laquelle la vie se déroule à n'importe quel instant. Par exemple, dans ce moment, je suis un peu conscient des objets dans cette pièce, des conversations que je viens d'avoir avec quelqu'un au téléphone, le micro, c'est un tableau incohérent, mais qui a son propre ordre, puisque c'est le moment qui arrive, qui impose son cadre sur tous ces détails qui n'ont pas de vrai rapport entre eux. Alors c'est ce happening qui m'intéresse, qui me tracasse même.
Ce qui m'intéresse plus particulièrement dans l'œuvre de Stein, par rapport par exemple à l'œuvre de Pound, et je pense qu'on devrait pouvoir établir une relation entre ces deux œuvres. Si vous voulez, je dirais une relation entre la paranoïa masculine et la paranoïa féminine. Je pense qu'on devrait pouvoir trouver et établir une relation entre ces deux œuvres. Pourtant, ce qui les différencie et ce qui m'intéresse pour moi énormément dans l'œuvre de Stein, c'est le rapport qu'elle entretient au langage enfantin. Ce rapport est trop explicite dans le court fragment que je viens de lire, puisque en fait c'est un texte qu'elle destinait aux enfants. Mais on le retrouverait dans tous les textes, n'est-ce pas? On le retrouverait sous la forme du baby talk, sous la forme de la complainte enfantine, n'est-ce pas? Il y a ce poème de Gertrude Stein qui est extrêmement connu, « Rose, is a rose, is a rose, is a rose », qui a cet effet dans la langue qu'on retrouve dans certains jeux d'enfants, n'est-ce pas? Dans certaines chansons que les enfants s'inventent pour eux-mêmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans une façon de jouer avec la langue comme si elle ne spécifiait pas à chaque fois un sens et des objets, mais comme si elle était entièrement portée par son rapport ludique. Et je pense que l'œuvre de Gertrude Stein, de ce point de vue-là, est très importante dans la littérature, parce que si on considère la littérature contemporaine de Gertrude Stein, c'est un effet qui est extrêmement peu travaillé, qu'on trouverait chez Joyce, d'une certaine façon, mais certainement pas avec l'insistance qu'il peut avoir chez Gertrude Stein. Et je dois dire qu'elle a, à ce type de rapport, elle entretient avec ce type de rapport une intelligence extrêmement fine et extrêmement subtile, parce qu'elle parvient à le faire jouer tout à fait librement, sous la forme du Forda freudien, n'est-ce pas, absolument, elle parvient à le faire jouer tout à fait librement, de façon tout à fait ludique, et elle parvient en même temps à l'intégrer à des discours beaucoup plus rationnels. Par exemple, si on prend un livre qui a été traduit en France il y a très très longtemps, je crois aux éditions Confluence, qui sont les éditions qui ont disparu, qui s'appelle Autobiographie au pluriel, et qui en anglais doit s'appeler Autobiography of Everybody, ou quelque chose comme ça. Si on prend ce livre, on s'aperçoit que le rapport que Gertrude Stein a à la langue, dans des récits qui sont biographiques, autobiographiques, eh bien, c'est le même type de rapport qu'elle a dans des textes beaucoup plus apparemment gratuits. Et elle parvient à faire passer ce plaisir de la langue, ce plaisir que la langue a pour elle-même, n'est-ce pas? Le plaisir qui consisterait simplement à prononcer les mots sans qu'ils portent un sens. Le plaisir de les entendre et de les entendre passer dans leurs liens les uns aux autres, n'est-ce pas? Le plaisir phonétique de leur rapport les uns aux autres. Eh bien, elle parvient à le faire passer, ce type de plaisir, dans des récits relativement rationnels et traditionnels. Ce qui donne évidemment à ces récits, ce qui donne évidemment au message qu'elle veut faire passer, un impact beaucoup plus important, beaucoup plus profond pour le lecteur, que si elle s'en tenait à de simples effets linguistiques, à de simples effets de messages linguistiques. Si vous voulez, je crois que pour moi, c'est ça qui spécifie l'intérêt de Gertrude Stein. Et vous savez qu'elle a elle-même tenté de définir son rapport à la langue et son rapport à son œuvre comme déterminé par la peinture. N'est-ce pas ? Elle disait qu'elle voulait faire en littérature ce que les cubistes faisaient en peinture. Or, si on essaie de penser ce que les cubistes font en peinture, c'est-à-dire non plus de présenter l'objet dans un espace sémantique complexe et prédéfini par la perspective, mais au contraire de l'aplatir et de le développer sur toutes ses faces, de le faire venir en surface, eh bien, il me semble que on verrait que le rapport de Gertrude Stein à la langue est aussi, d'une certaine façon, encore qu'on ne puisse jamais faire avec le langage écrit ce qu'on peut faire avec le langage plastique, eh bien, on verrait que le rapport que Gertrude Stein entretient à la langue, c'est aussi un rapport qui tente à sortir chaque mot de son contexte sémantique, n'est-ce pas ? Et en quelque sorte, à le mettre au même niveau que celui qui vient avant et que celui qui vient après. Et je crois que la littérature moderne a beaucoup à apprendre de ça.
À côté de cette sorte de préoccupation, j'écris surtout en anglais. Et en anglais, ma problématique est apparemment très différente. J'ai commencé à écrire premièrement en anglais, c'est-à-dire j'ai senti un certain besoin, tout à fait au début, de m'exprimer en anglais, ce que j'ai fait sans difficulté. Et je crois que c'est cette absence de difficulté qui marque la distinction entre mon écriture en français et celle que j'adopte ou celle qui m'habille en anglais. Mon anglais, apparemment, quand je me relis par exemple ou d'autres me lisent, est plutôt affective comme écriture. C'est-à-dire, j'exprime des éléments qui sont plus systématiquement thématiques. Je raconte une histoire, si vous voulez. Je retrouve une sorte de filière dans certains domaines qui me passionnent. Et ayant fait des études d'histoire, je vais vous donner un texte ici. Ces études de l'histoire de France, d'Europe, se retrouvent d'une façon assez déformée, mais se retrouvent comme formant une des bases, un des piliers de cette écriture. C'est un très long poème qui s'appelle L'Europe mise aux enchères. The History of the Parisian Tribunal, Volume 1, pages 191-192. The following day was entirely hers. 6 o'clock in the morning, She found herself at the Palais Royal where she purchased a knife, un couteau. She then returned to her hotel room and made sure that he would not go to the convention that day. At 11:30, she hailed a cab and told him to drive to 20 rue des Cordeliers. The women who were there and Simone Evrard, who took care of him, did not allow her to come in. He is sick. It is impossible to say when he'll be able to see anyone. She returns to the hotel on Place des Victoires and writes a letter to him. The room is covered with drab wallpaper and there is only a small iron-wrought bed. The letter. Dear citizen, I come from... Ce n'est plus un fait qu'il faut considérer comme neutralisé par un texte historique. C'est un fait que j'ai retrouvé à travers un tableau, c'est-à-dire celui de David, à travers la pièce de Peter Weiss, n'est-ce pas, qui a travaillé cette époque à travers la perspective du marquis de Sade, et ensuite la mienne. C'est-à-dire qu'il y a tout un jeu ici d'optique, de pagination, de coupure, de rupture avec un cliché qui serait une leçon d'histoire. Voici Charlotte Corday, voici ce qu'elle a fait. Et alors, à travers cette suite de paroles qui semble, en tout cas en anglais, être liée, j'introduis, comme je le faisais dans mon texte français, toute une série de chutes, de coupures, de désaccords. Pour les retrouver, il faut, je crois, se laisser prendre par le texte lui-même.